Chers frères et sœurs, nous continuons la série « Quelle est la suprême intention ?» Nous en sommes à l'étude numéro 10 et le titre aujourd'hui sera « Le défi est jeté ». Le défi est jeté. Quand Job a eu sa captivité changée et fut rétabli dans son premier état, il a fait une expérience qui devait avoir une très grande portée. Mais nous ne pouvons en apprécier l'importance nous-mêmes que si nous avons compris la suprême intention du Père de s'assurer la possession d'une glorieuse famille. D'entre tous les fils de Dieu, Job était l'un des plus précieux. Son histoire est pathétique. Par cet homme, en effet, alors que les attaques s'étaient concentrées sur lui, le Père s'apprêtait à manifester la manière dont il allait justifier et faire approuver tous ses actes, et il faut bien le dire, tous ses actes face aux hommes, face aux anges et à l'univers tout entier. Il réduira au silence les hordes accusatrices de Satan en même temps qu'il provoquera et inspirera de la part de son immense famille une explosion de louanges comparable au bruit de grandes eaux. Notre Dieu est véritablement un Père merveilleux, et on peut donc le dire comme les anges qui se sont exclamés que Dieu est véritablement un Père merveilleux. Commençons par jeter un coup d'œil distant sur cette rencontre dans les lieux célestes. Par exemple, quand Dieu est accusé par Satan et que le défi est jeté. Un jour là-haut, alors que les fils de Dieu se présentaient devant le trône, Satan apparut aussi parmi eux. Il vaut la peine ici de noter que c'est Dieu qui prend l'initiative de parler à Satan. Voyons, dans tes allées et venues sur la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a point comme lui sur toute la terre. Il peut paraître étrange que Dieu attire ainsi l'attention de Satan sur Job. N'était-ce pas faire de lui une cible pour son ennemi? Mais Dieu le Père savait déjà quelle serait la réaction de Job quand il serait effectivement atteint et jeté dans le creuset de l'épreuve. Il semble d'autre part que Dieu était au courant des griefs qui s'étaient accumulés dans le cœur de Satan quand il se présenta devant Dieu parmi les êtres célestes. En concentrant l'attention de son interlocuteur sur Job, Dieu fait crever l'abcès. L'accusateur profite immédiatement de l'occasion qui lui est donnée. La fidélité de Job est-elle vraiment à l'abri de tout soupçon? En émettant un doute sur ce point, Satan donne libre cours à la haine qu'il voue à Dieu. N'y a-t-il pas une faille dans la solidité des relations entre Job et Dieu? Est-ce pour rien que Job sert Dieu? Par cette insinuation, Il pense de pouvoir embarrasser Dieu. Il prouve en tout cas qu'il avait déjà observé Job et qu'il était en train d'entreprendre quelques noirs desseins. Non seulement il met en doute avec un ricanement sarcastique, il met en doute la pureté du caractère de Job, mais il prolonge son insinuation en mettant en cause le caractère même de Dieu. Voyons, tu payes les hommes pour qu'ils te suivent. Qui donc refuserait ses fidèles services à quelqu'un qui vous tient lieu d'écran protecteur contre toute adversité et satisfait tous les désirs de l'âme? Cette basse provocation donne donc à entendre que Dieu ne peut pas constituer une famille comme il l'a désiré sans distribuer des cadeaux. Je voulais dire, comme nous sommes Noël aujourd'hui, des cadeaux de Noël. Réduit à sa plus simple expression, le point central de l'acte d'accusation peut se formuler comme suit. Notre Père peut-il vraiment gagner des fils et des filles à sa cause sans user de corruption et promettre mont et merveille? Une telle accusation exige une réponse. Est-il vrai que Dieu doive faire appel à l'égoïsme de l'homme pour réaliser son dessein? Ne peut-il obtenir des fils qu'à force de douceur et de gâterie? Et il pousse plus loin son défi. Tu l'entoures d'une haie protectrice et tu bénis le travail de ses mains. Le raisonnement de Satan est à la mesure de son propre cœur, car pour lui, si Job s'intéresse à Dieu, c'est surtout parce qu'il lui a accordé la prospérité et l'a comblé de toutes sortes de bonnes choses. En fait, Satan ne craint pas de se faire cette suggestion. Laisse-le moi un peu, hein, et nous verrons ce que deviendront ces fameuses protestations de loyalisme. Dieu répond en retirant la haine de Satan et aussi en retirant la haie, car il avait construit, il est vrai, une protection effective pour n'épargner, et dit-il, que la vie de son serviteur. Je veux que tu épargnes sa vie. C'est l'exigence primordiale. Donc, toute la création fut ainsi invitée à observer l'arène dans laquelle Job allait être mis à l'épreuve. Il y avait là les anges, les démons, fils des hommes. Tous furent convoqués au spectacle. Et pendant des siècles, le monde a eu pitié du pauvre Job et s'est demandé pour quelle raison Dieu permettait une telle souffrance. Mais ceux qui se sont identifiés avec Christ de manière à partager son point de vue à lui, ceux-là ont compris ce qui se passait là. Et nous pouvons presque les entendre dire « Quel privilège d'être choisi par Dieu, d'avoir les circonstances de sa vie réglées par lui, de telle sorte que l'adversité et les souffrances deviennent le moyen de lui donner gloire, de lui donner honneur et louange. Lui, seul Dieu, est en effet digne d'un tel hommage. Oui, c'est vrai, personne d'autre. Et nous devons nous souvenir ici que c'est seulement du côté de Satan et de l'homme que la relation entre l'homme et Dieu est controversée. Du côté de Dieu, il n'y a jamais de question sur ce point, car le Père connaît chacun des siens. Il avait déjà couvert du regard l'intervalle de temps qui séparait Job de sa pleine rectification, de son changement de captivité. Ce n'était donc pas Satan qui avait ouvert cette controverse. C'est Dieu qui avait pris l'initiative d'une crise qui, pour finir, allait justifier Job et réduire au silence les voix accusatrices du sombre royaume de Satan. Mais ce n'est pas tout. La victoire de Dieu dans l'épreuve de Job allait donner aux armées célestes l'occasion de faire éclater leur louange et de chanter de glorieux cantiques à celui qui se procure des fils à cause de ce qu'il est et non pas à cause de ce qu'il fait. Je répète, la victoire de Dieu dans l'épreuve de Job allait donner aux armées célestes l'occasion de faire éclater leur louange et de chanter de glorieux cantiques à celui qui se procure des fils et des filles à cause de ce qu'il est et non pas à cause de ce qu'il fait. Ça, c'est la grande différence. Pour l'observateur superficiel, le pauvre Job n'était qu'un agneau conduit à la boucherie. Tel est le point de vue humain. L'ennemi cherchait à faire croire que ce n'était pas Job qui était mis à l'épreuve, mais Dieu. Oui, un Dieu juste et droit peut-il, de propos délibérés, laisser souffrir ses propres enfants? Mais Dieu voulait seulement soumettre Job à des tests destinés à purifier ses mobiles. Dieu n'a que faire de ces mobiles charnels qui inspirent habituellement les hommes quand ils veulent se soustraire ou se constituer une clientèle. Sa méthode, c'est de se révéler à ses enfants comme à absolument digne de leur amour et de leur confiance. Oh, si nous pouvions voir dans quelle étroite intimité il se trouve, et comme il se trouve comme père avec chacun de ses fils au temps de l'adversité ou à l'heure de la correction. Quelle révélation! Il n'y a que ce grand amour de notre céleste Père qui puisse astreindre un fils à ce terrible creuset de la souffrance, car il sait à quelle gloire ce creuset le prépare. Nous autres pères humains, nous ne savons que trop bien comme nous sommes enclins à épargner ceux que nous aimons. Et quand nous nous laissons aller à ce penchant, c'est si souvent nous-mêmes que nous épargnons. Certains hommes ont une très grande valeur aux yeux de Dieu et une place tout à fait spéciale dans son plan. Seul, sans doute, un homme de ce calibre peut être donné en spectacle à tous les yeux du monde invisible. Pourtant, quiconque a pris sa place avec Christ dans les lieux célestes se rend bien compte que le cas de Job n'est pas unique. La nature même et le caractère du père exigent que tous ses fils soient éprouvés et changent de captivité avant de pouvoir le connaître pleinement comme père. L'histoire de Job a été utilisée pour illustrer presque toutes les expériences, presque toutes les situations qu'il est possible de rencontrer dans la vie chrétienne. Les uns prétendent que Job avait besoin d'être sauvé. Les autres insistent pour dire que c'est la guérison qu'il lui fallait. D'autres encore discerne chez lui le besoin d'être détaché des biens matériels ou de faire preuve de plus de patience dans la tribulation. Le récit révèle effectivement tous ces différents besoins comme faisant partie intégrante de l'expérience de Job. Mais il y a une leçon fondamentale que nous devons tirer de ces interprétations courantes de ces malheurs. La voici. Voyez-vous, les hommes sont toujours comme Job, beaucoup plus conscients de Job, c'est-à-dire d'eux-mêmes, qu'ils ne le sont de Dieu. Les prédicateurs et les docteurs de l'Église n'ont guère l'habitude de souligner ce que Dieu entendait réaliser par Job. Il souligne plutôt ce dont Job avait besoin, besoin que Dieu fasse pour lui. Que aucun homme ne s'imagine être tout à fait au point dans l'idée qu'il se fait de la vie ou de sa destinée, donc qu'il a encore son centre en lui-même et qu'il croit pouvoir utiliser Dieu à son propre profit. Nos paroles et nos actes révèlent si c'est à Dieu ou à l'homme que nous donnons la première place. Le retournement de la captivité de Job a quelque chose d'une démonstration, d'un modèle. Dans un sens, si Dieu l'a mis dans le creuset, c'était pour faire voir quelle suprême rectification, changement, doit encore être accompli en nous si nous voulons réaliser sa suprême intention. Selon toute apparence, au début de l'histoire, Job n'avait pas encore choisi le chemin de la croix qui s'enracine par l'expérience. Il n'avait pas son centre en Dieu et ne connaissait pas le mode de vie céleste. D'un bout à l'autre de son épreuve, chaque circonstance de son expérience était comme un jalon de plus en direction de son point culminant. En avançant d'un chapitre à l'autre, la véritable nature de son problème apparaît plus clairement. C'est dans le chapitre 29 que le Saint-Esprit met le doigt sur le point névralgique. Dans les 25 versets du chapitre 29, Job utilise 50 fois le pronom personnel ou l'adjectif possessif. C'est la vieille philosophie d'Adam qui rapporte tout à soi-même. Job était absolument aveugle à son besoin le plus pressant. Il ne voyait de sa personne que l'homme qui se donnait tant de mal pour plaire à Dieu. Et c'était là le problème. L'homme persistait à être le centre. Et chers amis, cela m'interpelle aussi. Quand nous arrivons au dernier chapitre du livre, Job a franchi le pas qui sépare l'ouï-dire de la contemplation directe. Il a vu Dieu. Il confesse sa conduite coupable et y réfléchit et se repent sur la poussière et sur la cendre. Vous pouvez vérifier. Et tout à coup, nous découvrons l'objectif auquel toutes ces expériences devaient aboutir. Chers amis, regardez. Voici un homme qui a été rectifié, changé, aux sources même de sa vie. Dieu avait déterminé ce qui serait le destin de Job, et le voilà réalisé. C'est devenu un autre homme. Remarquez ceci, il n'est pas écrit que l'Éternel changea la captivité de Job et qu'ensuite Job pria pour ses amis. On pourrait en effet s'attendre à ce que son intercession fût la conséquence de sa transformation. Mais c'est toujours l'homme naturel, charnel, qui tient cette sorte de raisonnement. Non, non, non. La Bible dit qu'il pria pour ses amis et que c'est seulement alors que sa propre délivrance arriva. Alléluia. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'interprétation donne à entendre que le rétablissement de Job dans son premier état comportait également une transformation morale qui le qualifiait pour comprendre la suprême intention divine et pour s'y associer. Dieu avait tellement transformé la sensibilité de Job qu'il y eut dans son cœur une initiative spontanée lorsque ses amis ont eu besoin qu'on devait vraiment prier pour eux. Dépouillé maintenant du manteau de son propre désespoir, il peut beaucoup mieux comprendre les besoins des autres. Il aurait semblé naguère que sa première préoccupation serait qu'on prie absolument et uniquement pour lui. Mais maintenant, il peut voir qu'il y en a d'autres qui attendent. Le Seigneur ne dit pas un mot à Job au sujet de sa délivrance. Pourtant, ne peut-il pas l'espérer maintenant? Au lieu de cela, Dieu lui renvoie ses consolateurs qui avaient, comme vous le savez, parlé si méchamment de lui. C'est donc à la requête de Dieu que les trois hommes vont se grouper autour du paria assis sur son tas de cendres. Job prie pour eux. Les cieux réagissent et de son trône, Dieu répond avec autorité. Job était devenu un vase d'honneur, oui, un vase d'honneur duquel Dieu pouvait, à la faveur de l'œuvre de mort qui lui avait fait subir, faire sortir la vie pour les autres. Dieu semble avoir choisi le meilleur parmi les hommes, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal, pour démontrer à quel point tous les hommes, dans leur état naturel, sont privés de la gloire de Dieu, ou bien, comme on l'a aussi traduit, ont besoin d'être rectifiés, ont besoin d'être transformés par Dieu. Malgré toutes ses vertus, Job avait besoin de passer par cette mort qui est l'humiliation, qui représente l'humiliation. Aussi, désormais, voyez-vous, Dieu va pouvoir l'éclairer plus complètement. Ce n'était pas assez de mettre dans la poussière un homme orgueilleux qui rapportait tout à lui-même. Dieu ne lui doit-il pas aussi la vision plus complète, la sagesse divine face à l'existence, quelque chose qui le mette en parfaite harmonie avec le Père et avec l'intention du Père? Oui, Job fut totalement transformé, de cela nous sommes absolument certains. Autrement, comment aurait-il pu sincèrement prier pour ses amis qui lui avaient parlé si durement et l'avaient si cruellement jugé? Quoiqu'il n'ait pas encore été justifié devant tous en étant délivré de son épreuve, il n'y a aucune rancœur en lui. Une pointe de dépit aurait pu surgir dans son cœur à la pensée que Dieu pouvait, par sa prière, bénir ses amis qu'il méritait si peu, alors que lui-même était laissé dans le dépouillement complet. S'est-il demandé ce qu'ils ont pu conclure de le voir toujours si éprouvé? A-t-il soupçonné qu'il fût capable, capable même pendant qu'il priait, de se moquer de lui? Mais non, nous ne trouvons dans le texte aucune trace de pareil sentiment. Que Job fut rectifié, fut transformé, que la croix eut commencé son œuvre au-dedans, la chose apparaît clairement dans le fait que Dieu entendit sa prière. Alors qu'il était en instance devant le trône, la parole d'autorité, la parole que seul le trône pouvait émettre, fut prononcée. Délivre mon serviteur Job, mon intention suprême de rectification a déjà été réalisée en lui. Je peux maintenant réaliser la délivrance extérieure. Ainsi, cette âme royale, déjà libérée de sa servitude intérieure, se trouve maintenant libérée des liens de l'affliction. Les derniers jours de sa vie, si fécondes pour la cause de Dieu, manifestèrent encore plus de grandeur que les premiers. Désormais, le Père pouvait sans risque partager avec lui tous ses biens, sachant qu'à l'avenir, il serait utilisé pour réaliser son intention. Mais au point où nous sommes parvenus, l'essentiel de la rectification, du changement de Job, pourrait nous échapper. Si les avantages qui furent la part de Job dans ces dernières années sont encore pour nous le principal sujet d'intérêt, c'est que notre sensibilité n'a pas encore été éveillée à la personne de Dieu et à ce qui peut le satisfaire, lui, Dieu. Et c'est dans cette attitude d'oubli de soi que l'on peut surgir, ou que l'on voit plutôt surgir, les plus grandes délivrances. T. Austin ou Austin Sparks, un célèbre écrivain biblique, s'associe à ce témoignage quand il est écrit, ou plutôt quand il a écrit, « Vous pouvez arriver à être prisonnier de vos propres problèmes spirituels. Le moyen d'en sortir, c'est d'avoir sur son cœur le fardeau du peuple de Dieu tout entier. C'est cela qui engendre le ministère, qui est une source de force et qui alimente la vie de prière. Il n'y a rien qui émancipe comme de porter le fardeau du Seigneur. Est-ce le cas pour vous? Ou bien êtes-vous encore en train de barboter dans les affaires du royaume, jouant avec les galets du rivage au lieu de gagner la haute mer, pénétrant avec Dieu dans les eaux profondes des grandes choses qui remplissent son cœur? Êtes-vous simplement intéressé ou passionnément préoccupé? Vous contentez-vous de passer des heures agréables? Ou portez-vous vraiment sur votre cœur les besoins de Dieu dans son peuple? Voyez-vous, chers amis, que c'est saisissant de vivre dans cette clarté nouvelle, tandis que le Père nous explique ce qu'il est en train de faire dans le présent siècle. Dans son plan de sanctification, nous constatons qu'il travaille suivant un processus bien déterminé, ou si vous voulez, bien défini. Comme le laboureur plante une certaine semence pour obtenir une abondante récolte de la même espèce, ainsi le Père éternel plante son précieux Fils pour conduire un jour beaucoup de fils et de filles à la gloire. Que de fois nous nous sommes laissés fasciner par la croissance du grain sans nous inquiéter du divin laboureur et de sa divine préoccupation. Il y a dans l'Épître aux Hébreux une pensée merveilleuse, assez rarement discernée, mais qu'on peut suivre à travers toute la lettre. En quelques mots, c'est l'histoire de deux corps que Dieu a préparés pour son Fils. Oui, comme laboureur, le Père a planté son Fils unique, dont il attend la croissance et une moisson de nombreux fils. Fils, ça veut dire fille, femme et homme, vous l'avez compris, qui parviendront un jour à la gloire. Dieu avait un message pour l'humanité et il tenait à le voir transmis dans toute son intégrité. C'est à son Fils qu'il le confia, et dans les siècles à venir, il continuera à parler par son Fils beaucoup de fils et de filles en un seul corps. Alléluia! Et l'univers entier en aura connaissance. Un résumé de ce thème est visible dans le rapprochement des passages suivants. Oui! Le Fils. Dieu a parlé par le Fils, littéralement en termes de Fils. Hébreux chapitre 1, verset 2, le Nouveau Testament amplifié. Mais quant au Fils, il dit, Hébreux chapitre 1, verset 8, version allemande, Christ les fidèles comme fils sur sa maison. Hébreux chapitre 3, verset 6. les fils conduire à la gloire, beaucoup de fils, Hébreux chapitre 2, verset 10. Mon fils, ne méprise pas le châtiment. Hébreux 12, verset 5. Ceux qu'il reconnaît pour ses fils, chapitre 12, verset 6. C'est comme des fils que Dieu vous traite, chapitre 12, verset 7. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, chapitre 12, verset 23. Il y a ici deux corps. Christ, entrant dans le monde, dit « Tu m'as formé un corps pour l'offrir », Hébreux chapitre 10, verset 5. Ce corps naturel qu'il reçut fut offert, planté dans la mort. Mais il y a un autre corps. Saint Paul en parle dans Colossiens chapitre 1 verset 18 comme du corps aux nombreux membres qui représentent l'Église. La parole de Dieu a beaucoup à dire du premier corps, de celui que le Seigneur Jésus-Christ sacrifia sur la croix, pour que nous puissions, en tant qu'individus, faire l'expérience d'une mise à part personnelle pour Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 10. Mais ce que nous avons ici ne constitue encore que les premiers éléments de la vérité. Son point culminant atteint les hauteurs d'une expérience collective, plus exactement corporative. Je répète cette phrase. Son point culminant atteint les hauteurs d'une expérience collective, plus exactement, on appelle cela une expérience corporative, dont nous n'avons encore que de faibles aperçus, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, écrit notre ami Saint Paul, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4, verset 13, non pas des hommes parfait, je le serai jamais, en tout cas moi pas. Je vis par la grâce de jour en jour, mais en devenant des hommes et des femmes parfaits tous ensemble, tête et corps, un homme et une femme parfaite. Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Norman Grubb, il note qu'il n'est pas dit « Ainsi en est-il du corps de Christ », mais « Ainsi en est-il de Christ ». Pouvons-nous concevoir la chose ? Nous sommes conduits à une unification avec Christ qui dépasse notre présente compréhension. Quand le Père accomplira le mystère de sa volonté, il réunira en un toutes choses en Christ, selon la version Darby. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Nous avons donc des aperçus extrêmement limités des gloires futures. Peut-être certaines de ces vérités se trouvent-elles contenues dans les paroles ineffables entendues par saint Paul, mais qu'il ne fut pas autorisé, nous est-il dit, à exprimer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui ne nous ont pas été dites, les vérités effectivement révélées nous conduisent de la meilleure et de la merveilleuse vérité de Christ en nous à la vérité beaucoup plus merveilleuse encore, de nous en Jésus-Christ. Lui seul peut en mesurer les implications. Un fait cependant est certain, et sur ce point, nous ne sommes pas laissés dans l'obscurité. Ce que Dieu voit n'est pas centré tellement sur l'individu, mais bien plutôt sur l'Église, et son œuvre puissante n'est pas accomplie par le membre isolé, mais par le corps tout entier. Et nous ferions bien alors de nous poser la question, s'il en est ainsi, pourquoi passons-nous tant d'heures à sonder et mettre au point notre relation individuelle avec lui? Pourquoi Jésus-Christ et avec lui ceux qui l'ont suivi a-t-il manifesté tant d'intérêt à l'individu? Parce que quand il parlait à l'individu, l'appelant à chercher la pureté du cœur et l'intégrité de la volonté, il visait à préparer les hommes en vue de leur action en tant que communauté responsable. En influençant l'individu, il faisait ce qui était le mieux calculé pour qualifier la future communauté. S'il parla davantage de l'individu que de la communauté, c'est qu'il poursuivait un objectif préalable, on peut dire essentiel. C'était pour restaurer la véritable individualité sans laquelle aucune communauté n'est possible. C'est donc l'individualité qui était son but premier et non pas l'individualisme. Je répète, c'est l'individualité qui était son but premier et non pas l'individualisme. Par l'harmonie intérieure, cette sainteté qui est une plénitude, nous sommes libérés de notre individualisme et de notre égocentrisme, et cela afin que la tête du corps de Christ Jésus puisse partager avec nous sa sensibilité et sa conscience du corps. Mais ici, nous avons à prendre garde. Il est possible de parler le langage de l'unité extérieure tout en bâtissant sur le sable. La relation qui unit le sarment au cep est une vérité universellement admise, mais elle doit être une expérience individuelle avant que le croyant puisse participer à tout ce qu'elle implique sur le plan élargi du corps de Christ. L'émiettement des forces par la multiplication des groupements chrétiens ne se produirait pas si chaque individu était éclairé et formé pour s'intégrer au corps, non pas théoriquement seulement, mais pratiquement. Nous trouvons ceux qui n'ont de préoccupation semaine et dimanche que pour explorer les chemins de l'unité visible sans s'assurer au préalable de l'état spirituel des personnes qu'on veut ainsi réunir. Pardon. La pensée de Dieu est très claire. Quand les gens sont unis à Christ, ce qui doit se voir dans leur vie, ils sont aussi unis les uns aux autres, alléluia, et cela par une vie commune. Chers amis, pour quelle raison prononce-t-il cette fameuse parole, pardon, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Comme je comprends la chose, le sens est simplement celui-ci pour les gentils, pour les non-juifs. Le grain de blé doit d'abord tomber en terre et mourir. Et l'heure viendrait où les païens auraient le privilège de voir le Christ comme corps formé de nombreux, de très nombreux membres. Alléluia. Prenons-y bien garde, chers amis. Nous tirerons profit à observer la méthode sanctifiante de Dieu par laquelle il fait sortir de l'herbe pour finir le grain tout formé dans l'épi. Elle peut se résumer en trois mots. Une crise, un processus et un but. Dans l'expérience personnelle, la sanctification est souvent une crise. Oh oui! Une crise qui conduit à de terribles luttes, et j'en sais quelque chose. La cause en est très souvent que l'Évangile n'a pas été prêché au complet. Les âmes qui se sont converties dans de telles circonstances n'ont pas eu une expérience adéquate du salut. Elles n'ont pas été informées dès l'abord de tout ce dont elle devrait être délivrée, ni de la vie à laquelle cette délivrance les destinait, ni de tous les moyens par lesquels Dieu entend réaliser son intention sans en rien omettre. Nous avons donc bien compris que cette séparation, la sanctification, est le processus nécessaire de la croissance. Il y a naturellement une sanctification qui découle de notre simple position de chrétien. C'est la sanctification d'origine qui signifie que nous sommes en Christ. Et l'adresse de la lettre de saint Paul à l'église de Corinthe, elle est formulée comme suit. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est la vérité objective. Elle nous est présentée pour que notre foi s'en empare et que, absorbant sa substance par la fidèle activité du Saint-Esprit, nous devenions en expérience ce que nous sommes par la foi. Plus nous entrons résolument par la foi dans la vérité objective, c'est-à-dire dans ce qui est vrai de nous en Christ, plus l'œuvre subjective en nous sera profonde, expérimentale et pratique, et plus sera complète aussi la manifestation de ses effets dans notre vie et dans notre caractère. En réponse à notre foi, le Saint-Esprit rend la vérité réelle dans nos cœurs et nous rend ainsi capables de la rendre réelle dans nos vies. Le mot sanctification exprime une double idée, celle de purification de quelque chose et celle de séparation en vue de quelque chose. Une de ces pensées regarde en arrière et l'autre regarde en avant. Nous commettons une grande erreur si nous limitons le sens du mot sanctification à l'idée de purification du péché. Ce qui est purifié est aussi séparé pour Dieu, afin de devenir un instrument qualifié pour la manifestation de la gloire de Christ. La sanctification a toujours ce but-là en vue. Notre obéissance à la vision céleste des intentions de Dieu fait descendre sur la terre les puissances du ciel. Afin de rendre le chrétien céleste dans sa nature déjà. Ses dispositions, son caractère et sa conduite vont être totalement changés, rectifiés. Christ se trouve donc ainsi manifesté par des personnes individuelles comme il doit être manifesté dans sa plénitude par l'Église dans les siècles à venir. Chers amis, comme le Saint-Esprit travaille-t-il en nous individuellement? La méthode est très simple. Le Saint-Esprit illumine le cœur du croyant, lui révèle la vérité et le rend capable de la traduire dans la vie pratique. Il devient l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Le processus de sanctification peut se résumer en trois mots. Révélation, appropriation et réalisation. Le Saint-Esprit met la vérité à découvert, c'est la révélation. L'enfant de Dieu répond par une énergique activité d'appropriation engendrée par la foi. Et c'est ainsi que la vérité passe dans l'expérience réelle, qu'elle s'actualise. Je fais parfois des fautes, puisque je suis de langue allemande. Donc ce processus est continu, car il est constitué par une série de découvertes et de révélations progressives. Comme dans la vie individuelle du croyant et dans l'histoire de chaque communauté, de même dans l'histoire, l'Église a passé de l'herbe à l'épi, puis à la maturité du grain, tout formé dans l'épi. Nous verrons dans une étude ultérieure que saint Paul semble avoir compris. Il a compris chacun ou chaque degré de maturité ne serait réalisé par l'Église tant qu'elle n'aurait pas sa captivité retournée. Tout au long des siècles, elle a vu les choses souvent, malheureusement, à l'envers, vivant essentiellement pour ce qu'elle pouvait recevoir du Seigneur, mais tout à fait indifférente à ce qu'elle pouvait être pour lui en tant que corps. Une fois que la chose lui est devenue claire, le processus de sanctification devient pour elle un choix continuel entre ce qui est et ce qui contribue à la vie vécue pour lui. Oui, le temps de s'éveiller au dessein de Dieu est arrivé. Il n'y a aucun autre moyen d'expliquer la discipline toujours plus sévère à laquelle sont soumis tant d'enfants de Dieu à l'heure actuelle. La souffrance abonde de tous côtés, et cette souffrance ne fera que s'intensifier jusqu'à ce que le corps entier entre universellement en travail. Si l'Église doit être soumise à de telles douleurs, c'est parce qu'elle doit enfanter un jour nouveau. Il n'y a rien comme la souffrance, et j'en sais quelque chose, pour nous rendre conscients du lien qui nous unit au corps de Christ, pour nous donner une sensibilité corporative. Je répète, il n'y a rien comme la souffrance pour nous rendre conscients du lien qui nous unit au corps de Christ, pour nous donner une sensibilité corporative. Il y a quelque chose de merveilleux dans la vibration de sympathie qui traverse tout le corps. Quand un membre souffre, le corps tout entier souffre. Et c'est vrai du corps naturel, et c'est vrai de l'Église dans son ensemble. Avant de terminer par la prière, je dirais évidemment, le peuple de Dieu s'éveille à son besoin de maturité. Il se sent saisi par un sentiment d'impuissance et d'insuccès. La pression augmente de toutes parts et dans le monde entier, on perçoit de douloureux soupirs. Ils sont poussés par tous ceux qui attendent cette pluie salutaire qui fera mûrir le grain. Les semailles que Dieu a faites viendront à maturité, mais ce n'est pas en se concentrant sur son propre bien-être et sa croissance à lui que le grain individuel hâtera sa maturité. La méthode divine est toute à l'opposé. La véritable maturité, la fécondité réelle, celle qui profite à Dieu, ne se manifeste jamais que là où l'on partage la préoccupation divine pour la maturité des autres grains. La préoccupation d'arriver soi-même, de se préserver soi-même d'un échec, c'est le chemin de la mort spirituelle. Ce qui était vrai du Fils de Dieu sera vrai de tout grain de blé désireux de produire quelque chose. Pas de gloire sans une perte, nous dit un célèbre serviteur de Dieu. Il était un des plus grands serviteurs qui parcourait la Chine. Je répète, pas de gloire sans une perte, point de salut sans une croix. Pour se multiplier, le grain de blé doit tomber en terre et mourir. Partout où vous voyez des champs mûris s'offrant à Dieu en gerbe d'or, un grain de blé est mort. Soyez-en sûrs, une âme crucifiée a vécu là, quelqu'un a combattu, pleuré, prié, et sans faiblir, triomphé des légions de l'enfer. Amen. Nous terminerons maintenant par la prière. prions donc. Dieu Tout-Puissant, nous t'avons prié de nous apprendre à sentir de plus en plus combien nous sommes en toutes choses obligés d'accomplir ta volonté. Mais nous devons te supplier encore de nous apprendre à aimer surtout ta volonté et de nous la rendre vraiment chère et précieuse. Lorsque tu nous rends heureux, lorsque tu nous combles de faveur, que cette pensée, c'est la volonté de Dieu, nous rende plus heureux encore et donne davantage de prix à tes bienfaits. Lorsque tu nous éprouves par la maladie, par l'affliction, que cette même pensée adoucisse nos souffrances et ôte toute amertume à la douleur. Et lorsque tu nous appelles à quitter cette terre, que nous te disons avec promptitude et confiance que ta volonté soit faite au Dieu et non pas la nôtre. Seigneur, nous savons que tu ne veux pas la mort du pécheur. Non, tu le dis, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais bien au contraire, ta volonté est qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est en nous appuyant sur cette précieuse promesse que nous implorons ta grâce et que nous te supplions de nous attirer de plus en plus aux pieds de Jésus-Christ, du Sauveur, par lequel nous sommes réconciliés avec toi. Ce divin Rédempteur, un avec toi, ô Dieu Tout-Puissant, nous a donné l'exemple d'une obéissance sans borne à ta volonté. C'est en lui que nous trouverons des secours pour savoir nous y soumettre. Seigneur, prends pitié de notre faiblesse et daigne amener toutes nos pensées et toutes nos volontés captives à l'obéissance de la croix, que nous puissions dire au fond de nos cœurs avec ton divin Fils, j'ai pris plaisir à faire ta volonté. Il n'est pas un instant de notre vie où nous n'ayons ce devoir à remplir. Tes anges puissants en force obéissent à la voix de ta sainte parole. Que toute la terre se prosterne aussi devant toi. Éternel notre roi et notre Dieu, daigne nous faire passer ces jours dans la paix et dans la douce confiance de ta volonté et ta, on peut dire, ta toute puissance pour nous garder victorieux. Et nous te remettons tous ceux qui sont très chers, qui nous sont très chers. Nous les remettons entre tes mains paternelles, afin que tu en disposes selon ta volonté, et que ton saint nom soit béni et glorifié à jamais. Amen. Amen. Et chers amis, à demain, Dieu voulant, la suite. Soyez bénis, et il n'est pas défendu de réécouter certains de ces études, car parfois on reçoit quelque chose, on peut dire un plus. Soyez bénis, à demain Dieu voulant. Au revoir.